Parce que les émotions, c'est terminé.
Le rôle des pensées. Voilà donc les perspectives de notre nouveau galop. Le rôle des pensées. On a vu jusqu'à présent qu'avec le bonheur, finalement, on a des perspectives qui sont tracées, où on sait que si on fait ce que Dieu nous demande, alors on aura des états d'âme qui correspondront, qui seront à la hauteur de ce que Dieu nous demande et qui seront agréables. On a vu aussi que l'accompagnant est quelqu'un qui doit se tenir disponible et prêt pour recevoir l'accompagné. Et on a vu comment, dans l'entretien, ces choses pouvaient se faire avec trois phases, hein, qu'on pourrait appeler l'écoute, la première. La deuxième, c'est la reformulation dans laquelle on va déterminer la responsabilité du souffrant et puis tout ce qui peut finalement être générateur de souffrance. Et puis cette troisième phase, des perspectives bien définies dans lesquelles la volonté de Dieu pourra se préciser. Ce matin, on a vu que on avait un levier sur nos émotions, que nos émotions étaient finalement directement liées à nos pensées rationnelles, et que si on ne peut pas intervenir sur nos émotions, alors on peut intervenir, mettons, moment après moment, instant après instant, dans nos pensées, et dans un sens pour nous préparer des émotions qui sont selon Dieu. Et donc maintenant, on va voir comment agir efficacement sur ce levier des pensées. Qu'est-ce que c'est que les pensées? Et on va prendre comme verset clé ce verset de Proverbe 23, le verset 6, comme quelqu'un a pensé dans son âme, tel il est. Autrement dit, ce que je pense en moi-même, alors dans mon âme, en moi-même, définit ce que je suis. Et aujourd'hui, je suis arrivé à cette conclusion, peut-être provisoire, que ma personnalité, c'est la photographie, si on pouvait la faire, de l'ensemble de mes pensées d'aujourd'hui. Donc ma personnalité d'aujourd'hui est différente de celle que j'étais la semaine dernière, de celle que j'avais la semaine dernière, parce que la semaine dernière, je n'avais pas passé quelques temps avec vous. Et donc, forcément, j'ai évolué, et la personnalité est quelque chose qui est constamment en évolution par rapport à ce qu'on pense. Quelques versets bibliques qui nous interpellent. Le Seigneur Jésus dit à ses disciples, en Marc 8, « Comment ne le comprenez-vous pas ?» Comment ne le comprenez-vous pas ? Il me semble, je le dis de mémoire, qu'il parle de quelque chose qui suit la multiplication des pains. Et donc le Seigneur Jésus avait multiplié les pains, il les avait mis en garde contre le levain d'Hérode, et eux disaient peut-être qu'il nous reprend parce qu'on n'a pas acheté de pain. Et donc il dit, mais comment ne le comprenez-vous pas ? Dans 2 Timothée 2,7, Paul va dire à Timothée, « Considère ce que je te dis, le Seigneur te donnera de l'intelligence. » Autrement dit, intelligence, intelligere, c'est comprendre. Et autrement dit, à l'écoute de la parole de Dieu, nous pouvons comprendre les choses.
C'est pas la même chose que la foi précède et l'intelligence suit.
Ok, on en parlera après de toute façon. Je préfère qu'on pose les choses maintenant. Ici, dans Marc 6, 52, cette expression, leur cœur était endurci. On a parlé du cœur comme robinet des pensées. Hein, c'est du cœur que viennent les pensées, les vols, les meurtres, etc. Et donc, leur cœur était endurci en quelque sorte, comme s'ils n'étaient pas malléables pour que les pensées de Dieu viennent en eux et puissent les toucher. Alors ça, c'est vraiment dommage. Et puis cette expression de Léon Blum, « L'homme libre est celui qui n'a pas peur d'aller jusqu'au bout de sa pensée ». Hein, voilà pour reprendre cette notion de malléabilité. Nous avons donc à être malléables dans les mains de l'Esprit de Dieu. On parlait hier du fait de ne pas attrister l'Esprit de Dieu, hein, Éphésiens 4, verset 30. Et donc à nous d'avoir bien conscience que notre pensée définit notre personnalité et que finalement nous avons à accueillir la pensée de Dieu de manière ouverte. Alors, voilà quelques pistes. Première piste, c'est que les pensées sont là pour construire. Autrement dit, ma personnalité se définit jour après jour, et chaque fois que je pense, en fait, je définis ma personnalité. Quand je regarde Jean-Paul, quand je regarde Nicole, etc., quand je regarde les tables, quand j'entends le bruit du vidéoprojecteur, quand je tiens en main ma télécommande, quand je me tiens debout, quand je pense à la couleur, etc., je suis continuellement en train de penser, et ces pensées participent à la construction de mon être. Autrement dit, nous risquons d'envisager qu'il y ait des pensées qu'il ne soit pas gênant d'avoir en nous-mêmes, parce que finalement, on n'envisage pas qu'elles participent à la construction. Des pensées pour construire. Des pensées pour être. Autrement dit, cette construction de mon être, elle sert à ce que mon être s'exprime. Et combien de fois nous trouvons-nous dans une situation où on va dire de toute façon, moi, je suis comme ça. Hein, je n'y peux rien. Oui, mais si je suis comme ça, si mon être est comme ça, c'est quand même parce qu'au bout du compte, j'ai investi dans cette direction-là. J'ai pensé dans cette direction-là, j'ai alimenté, j'ai posé quantité de choses qui font qu'aujourd'hui je suis devenu quelqu'un comme ça. On ne devient pas finalement quelqu'un par hasard. Au bout d'un certain temps, ce que je suis devenu, c'est vraiment là où j'ai investi. Le Seigneur Jésus dit, là où est ton trésor, là sera ton cœur. C'est-à-dire, considère vraiment ce qui est important, et c'est là où tu vas vraiment construire, et c'est là où tu seras. Hein, des pensées pour être. Penser, je mets ensuite, et réagir. C'est que nos réactions, là aussi, ne viennent pas de nulle part. Si je suis quelqu'un de spontané, c'est parce que j'ai défini, en fait, ma vie comme ça. Je l'ai fait une fois, 10 fois, 127 fois, 363 fois. Et puis finalement, il y a un moment donné où je ne me rends plus compte que je ne décide plus de le faire. Et c'est ma réaction. Et je risque de dire « je suis comme ça, je suis jaloux ». Je suis impatient, je suis envieux, je suis nonchalant, négligent, etc. Mais en fait, non, je ne suis pas comme ça. Hein? Je réagis comme ça aujourd'hui, mais je réagis parce que je l'ai pensé suffisamment de fois pour le devenir. Et c'est pour ça que nous avons à comprendre le rapport entre penser et cultiver. À nous de bien prendre conscience, comme le dit on le verra à Galates 6, verset 7, on ne se moque pas de Dieu, ce que quelqu'un sème, cela aussi il le récoltera. Ce qu'il sème par la chair, il le récoltera en corruption pour la chair. Par contre, ce qu'il sème par l'esprit, il le récoltera pour la vie éternelle. Donc, penser et cultiver. Et de fait, si je pense, si Dieu m'appelle à cultiver, c'est que je peux cultiver, c'est que je peux penser, c'est que je peux toujours penser juste. Et donc, peut-être que quelque part, chacun de nous de manière différente se dirait, mais de toute façon, penser comme Jésus, c'est impossible. Penser vrai, c'est impossible. Mais quand Paul dit aux Corinthiens, or nous avons la pensée de Christ, ça ne veut pas dire que toutes les pensées de mon système de pensée correspondent forcément à la pensée de Christ. Mais ça veut dire qu'au moment où je pense, Christ est susceptible de me révéler sa pensée. Or, nous avons la pensée de Christ. Donc, je peux cultiver, je peux penser de manière spirituelle. Je peux penser de manière spirituellement vraie. À l'inverse, j'ai mis ici en blanc, c'est pas très lisible, terrain mal construit. À l'inverse, Colossiens 1:21 dit que nous étions ennemis de Dieu dans nos pensées et dans nos œuvres. Autrement dit, tant que je ne suis pas réconcilié avec Dieu, là-dedans, c'est le terrain vague. Ça ne veut pas dire que sur un terrain vague, il n'y a pas de bonnes choses. Les nations, nous dit Matthieu 5:48, sont capables d'aimer. Verbe grec, agapao. Les nations sont capables d'aimer. Hein? Mais nous étions ennemis de Dieu dans nos pensées et dans nos œuvres. Les pensées, c'est ce terrain qui est mal construit, et les œuvres, c'est ce qui découle des pensées. Dans Romains 1, il est dit que les hommes ont changé la gloire du Dieu incorruptible en la ressemblance de l'image d'un homme corruptible, et il est dit que Dieu les a livrés à trois choses. Romains 1, 24, il les a livrés à l'impureté. Romains 1, 26, il les a livrés à des souffrances infâmes. Et Romains 1, 28, il les a livrés à des pensées réprouvées. Qu'est-ce que ça veut dire, Dieu les a livrés? Est-ce que ça veut dire qu'il les a sauvagement condamnés à quelque chose? Non, Dieu ne fait pas mal. On l'a vu hein, hier soir, Dieu ne punit pas. Mais Dieu, finalement, laisse l'homme. L'homme se détourne de Dieu et se tourne vers ce qui n'est pas Dieu. L'homme se détourne du soleil et il vit dans des grottes, alors il a froid. Alors Dieu lui dit, si tu as froid, habille-toi. Mais Dieu préférerait que l'homme aille au soleil. Et Dieu les laisse, en fait, dans l'absence de Dieu, du seul Dieu, et les hommes, dans l'absence de Dieu, sont en quelque sorte laissés à eux-mêmes et livrés à l'impureté, à la souffrance et à des pensées réprouvées. Comment est-ce qu'on peut entendre ça? Je dirais que la première chose sur laquelle le focus, se pointe, c'est le comportement. Dieu les livre à l'impureté. Dieu les laisse aller, ils sont privés de Dieu, donc ils font mal. La deuxième chose, c'est la souffrance, ils se font mal. Et la troisième chose, c'est que finalement, sans Dieu, leur connaissance de l'ensemble des choses qu'ils ont à penser est dévoyée, pervertie, réprouvée. Réprouvé, c'est-à-dire quelque chose qui est désapprouvé, dont il est prouvé que ça ne va pas. Ennemi de Dieu. À l'inverse, à l'enfant de Dieu, qu'est-ce qu'il nous est dit? Romains 12, 3, pensez de manière à avoir de saines pensées. Philippiens 4, 8, tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, de bonne réputation, que cela occupe vos pensées. Et puis 2 Corinthiens 10, 5, amenant toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alors, nous pouvons occuper nos pensées. Et nos pensées, ici, dans ce terrain qui n'est pas encore bâti, j'ai marqué que c'est le lieu du plan de Dieu, une habitation de Dieu par l'Esprit, autant individuellement que collectivement avec l'ensemble des chrétiens et l'Église. Emmanuel Kant a dit, penserions-nous beaucoup et penserions-nous bien si nous ne pensions pas, pour ainsi dire, avec d'autres. Je trouvais ça intéressant parce que, pourquoi est-ce que je peux vous dire ça? C'est grâce à tous ceux avec qui j'ai parlé. C'est grâce aux échanges, c'est grâce aux confrontations, c'est grâce aux réactions, c'est grâce aux différents commentaires de la Bible. Et donc, comment est-ce qu'on peut, nous, définir ce qui est vrai? Alors, bien sûr, l'Esprit de Dieu nous conduit. Mais heureusement qu'on a, pour le royaume de Dieu comme pour d'autres sujets, les uns qui disent ceci, les autres qui disent cela. Il ne s'agit pas d'aller vers une pensée unique. Au contraire, je pense que dans l'éternité aussi, nous entretiendrons la pensée qui nous est révélée grâce aux relations que nous aurons les uns avec les autres. On en reparlera C'est peut-être un peu compliqué à expliquer tout de suite. Comment est-ce qu'on peut juger de ce qui est vrai? Juger de ce qui est honorable, juger de ce qui est juste, ce sont les expressions de Philippiens 4, pur, aimable et de bonne réputation. Eh bien, je crois que dans les échanges, dans cette construction collective, une habitation de Dieu par l'Esprit, mais aussi individuelle, parce que ça commence par l'individu, alors on peut réfléchir à ce qui est vrai. Honorable, c'est-à-dire à ce à quoi on attribue de l'honneur ou de la crainte. L'honneur en grec, c'est timo, comme dans Timothée. Et c'est aussi traduit par crainte. C'est-à-dire qu'en fait, on sait qu'on ne sait pas exactement ce qu'il faut penser, mais on s'en approche avec crainte. On a une attitude de respect, d'ouverture, une attitude de déférence à l'égard de Dieu pour qu'il nous révèle et pour qu'il nous montre comme il est une pensée qui est honorable. Pensée juste, pensée pure, pensée aimable, pensée de bonne réputation. Il y a des choses qui, finalement, touchent plus l'individu, la pureté par exemple, qui touchent plus la collectivité, la bonne réputation. Et on a l'impression que, on est appelé à vraiment réfléchir sur ce qui est opportun de garder ou de ne pas garder. Comment le faire? Eh bien, c'est intéressant de voir que dans les écrits du Nouveau Testament, dans le grec, il y a différents verbes qui montrent la réalité des pensées. C'est pour ça que j'ai mis un « les » en majuscule ici. Il y a différentes manières de penser. La première manière de penser que je vous propose, c'est ce mot grec « entumeomai » et dans lequel on retrouve le radical « tumo » dont on parlait avec Hélène tout à l'heure, qui est le mouvement de l'âme. « Entumeomai », c'est la rumination. Et Hébreux 4:12, c'est la parole de Dieu atteint jusqu'à la division, la séparation de l'âme et de l'esprit, discernant les pensées et les intentions du cœur. Et donc là, on pourrait dire rumination, réflexion. La pensée, on commence par la brasser. On commence par l'accueillir en la regardant de différents côtés, en la mettant en commun, en écoutant différentes manières de parler la même chose. Sachons être ouverts à cette rumination, mais aussi à ne pas en rester là. Logizomai, Romains 3:28. C'est littéralement découpé. Mais logizomai, dans logizomai, il y a logique. C'est-à-dire qu'à la suite de notre rumination, de notre réflexion, il y a des choses qui nous semblent logiques. On pourrait dire que on coupe, on sépare, on sectorise, on hiérarchise, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on le dit, la pensée, on lui donne une hiérarchie. Quelque chose devient plus clair. Dans Romains 12, verset 2, il y a ce mot « noia » qui veut dire compréhension, qu'on retrouve assez souvent dans la Bible, mais comme logizomai d'ailleurs aussi. Compréhension. La fin du verset 2, c'est « soyez transformés par le renouvellement de votre noia ». La compréhension. La repentance, c'est le métanoïa, c'est le changement de compréhension. C'est donc quelque chose d'intellectuel. Je reçois la parole de Dieu intellectuellement, je la comprends, et je change de pensée. Voilà. Et donc, vous voyez ici qu'il y a différents mots qu'on peut classer dans un ordre particulier. On réfléchit, on découpe, on fait un classement, on pourrait dire. Et puis, il y a petit à petit une compréhension des choses qui se fait. Cette compréhension nous amène quoi? À quelque chose qui est traduit par le sentiment dans Philippiens, dans la version Darby. Ayez ce sentiment, Philippiens 3:15. Mais en fait, ça veut dire ayez cette pensée établie. Phronéo qui vient de phrène, qui veut dire diaphragme. Donc il y a une manière de penser qui est plus, comment dire, approuvée, contrôlée, vérifiée, que par exemple entumeomai ou même noia, qui veut simplement dire la compréhension. Et ce qui est intéressant, c'est que avec tout ça, alors dans la conférence de Jérusalem en acte 15, eh bien la conclusion c'est il nous a semblé bon, dokeo, à nous et à l'Esprit Saint, hein, de faire ceci et cela. Autrement dit, malgré une rumination, une logique, une compréhension, un établissement de choses, alors on reste prudent et on dit, voilà, il nous semble. Voilà ce que peuvent être les pensées, voilà ce que peut être le cheminement des pensées en nous. Et donc, sur certains sujets, si on en est à l'entumeomai, tout va bien. Alors vous pourrez dire à la fin de la semaine, « Oh Guillaume, tu nous as entumeomaillé. » Hein? Mais ça, ce n'est pas un problème, ça. Ce qu'il faut, c'est que les choses aillent dans ce sens. Il faut avancer avec le Seigneur. Et on va pouvoir ruminer sur certains sujets, mais pas sur d'autres. Hein? On va pouvoir, au fur et à mesure qu'on prend de l'âge, eh bien, on découvre des situations dans lesquelles on est dans la réflexion, dans le entumeomai. Mais cette réflexion nous mène à découper, à comprendre, à établir et après à marcher avec le Seigneur. On marche avec le Seigneur déjà au début, mais à marcher de manière finalement plus adulte parce qu'on a compris des choses. Alors, voilà ce qu'on pourrait appeler le moteur de la pensée, le mécanisme de la pensée. Il ne faut pas que ça m'effraie de penser. Je peux avoir une pensée personnelle, mais cette pensée-là, elle va se mettre en œuvre de manière différente, suivant les personnes avec qui je suis, les sujets desquels je parle, les moments de la journée, si je suis plus fatigué, moins fatigué, si je comprends plus ou moins vite, etc. On a parlé du moteur, et maintenant, on va un peu parler du lieu des pensées. Dans Galates 6, 7, on entend « On ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme sème, cela aussi, il le récoltera. » Autrement dit, ce lieu des pensées me fait penser à un jardin. Hein? Je sème, je récolte. Chaque fois que je pense, si je pense « la chemise de Charles est jolie », alors je sème quelque chose. Si je pense c'est bien qu'on puisse ouvrir la fenêtre pour voir de l'air, je sème quelque chose. Si je pense, c'est pas bien que la salle soit carrée, c'est pas bien qu'il y ait, que les tables soient en U, que l'écran est trop près, etc., je sème quelque chose. Chaque fois que je pense à quelque chose, je sème quelque chose. Et chaque fois que je sème quelque chose, alors je récolte quelque chose. Ici, voilà quelques exemples de récolte. J'ai mis en premier lieu à gauche voir Dieu. Pourquoi ? Parce que dans le Sermon sur la montagne, il est dit « Bienheureux ceux qui sont purs de cœur, car ils verront Dieu. » Autrement dit, quand dans mes pensées, le cœur étant le robinet des pensées, quand mon filtre est efficace, alors le premier fruit, c'est ça. C'est quand même pas un fruit ordinaire. Ça montre bien si c'est essentiel d'avoir un cœur en bon état, d'avoir un cœur bien disposé, d'avoir cette vertu en quelque sorte personnelle, de dire « Seigneur, c'est ce que tu veux me dire qui est important et pas ce que j'ai compris. Seigneur, c'est le chemin dans lequel tu m'appelles à marcher qui est important et pas les rails dans lesquels j'ai marché. » Seigneur, c'est ta vérité qui est importante et non pas la vérité que je me suis constitué comme bagage et qui éventuellement me mettrait en sécurité. Être pur de cœur. Mais mes pensées aboutissent à des paroles, des attitudes, des émotions, des buts, des actes, finalement à un avoir, c'est-à-dire à un bagage. Par exemple, si nous regardons en Genèse 4, ce qui s'est passé avec Caïn. Caïn apporte une offrande à l'Éternel. hein, qui était l'offrande des fruits de la terre. Il avait cultivé, et donc il apporte son offrande. Et l'Éternel, lui, n'agrée pas son offrande. Et il est dit, Caïn fut irrité. Autrement dit, l'irritation est une émotion de la famille de la colère, merci Pierre, et donc, en fait, Caïn a un projet. Il a un projet, en fait. Son projet, c'est d'en faire qu'à sa tête. Dieu lui a dit, écoute, comme il avait dit à Abel, Abel avait apporté un agneau, et l'offrande d'Abel, nous dit Hébreux 12, parle encore. Hébreux 11, pardon. Caïn n'a pas fait comme Abel. Ou plutôt, Caïn n'a pas fait comme Dieu lui avait demandé de faire. Conclusion, son but est bloqué, comme on l'a vu ce matin, et il est irrité. Qu'est-ce qu'il est dit ? Il est dit juste après, son visage s'assombrit. Il est dit, il parla à son frère, et il le tua. Et là, on a, comment dire, quelque chose d'assez cohérent. Hein, nous sommes comme un homme à penser dans, et une femme à penser dans son âme, tel il est. Et tout ce que je pense ressort. Un jour, j'ai eu au téléphone quelqu'un, un des parents, qui avait vraiment une relation douloureuse, difficile avec certains de leurs enfants. Et il fallait qu'ils aillent les voir. Et on parle, et puis je leur dis, mais qu'est-ce que vous allez dire à vos enfants ? Alors, lui, il me répond, et il dit, on va dire ça, et ça, et ça. Et je dis, mais qu'est-ce que vous pensez de vos enfants ? Ah, il me dit, non, moi, je pense ça, et ça, et ça. Et qui était fondamentalement différent de ce qu'il allait dire. Je lui dis, mais comment penses-tu que ce que tu vas dire aura une efficacité ? Comment est-ce que ça peut avoir une efficacité, vu que tu penses le contraire ? Et il ne faut pas croire que ce que nous pensons ne soit pas visible, soit par nos paroles, soit par notre attitude, nos émotions, nos actes, notre avoir, ou la présence de Dieu en nous. Moïse ne savait pas que la peau de son visage rayonnait. Autrement dit, ce qui se passe avec le Seigneur ici, le cœur étant, en position on quand tout va bien, off quand tout va mal, et avec toutes les positions intermédiaires, hein? Voilà le lieu de la rencontre avec le Seigneur, et voilà comment est-ce que tout le reste résulte. Mais qu'est-ce qui se passe dans nos pensées ? Eh bien, dans nos pensées, il y a nous, mais il y a aussi la parole de Dieu qui vient. Dieu connaît, sonde les reins et les cœurs. Hein, je crois que c'est dit dans le psaume 7 ou 9, il faudra le vérifier. Hein, et c'est dit trois fois dans l'Ancien Testament. Et ce n'est dit que de Dieu. Autrement dit, non seulement Dieu accède à nos pensées en nous parlant, dans ce qu'on pourrait appeler le langage spirituel, mais Dieu nous parle, mais Dieu connaît nos pensées. Hein, moi, je connais vos pensées, etc. Hein, Jésus savait parfaitement ce qu'il y avait dans l'homme. Jésus nous est aussi montré comme fils de Dieu et comme Dieu, comme connaissant ce que les autres pensaient. Les anges nous parlent également. Les démons nous parlent. Le diable nous parle. Mais les esprits, s'ils peuvent nous parler, ils ne savent pas ce qu'il y a en nous. C'est peut-être pour cela que la sixième pièce de l'armure d'Éphésiens 6, qui est l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, parole en grec, rémata, qui est donnée rhétorique, c'est la diction, c'est l'expression ouverte. L'épée de l'esprit qui est l'expression ouverte de Dieu. Je ne sais pas si ça retentit chez vous. C'est-à-dire qu'en fait, pour faire face au monde invisible et adverse, ce qu'il faut, c'est parler à haute voix. Autrement dit, les démons ne savent pas ce que nous pensons. Mais par contre, les démons nous voient, ils voient aux choses auxquelles nous nous intéressons. Et de ce fait, ils agissent en fonction de ça. Mais ils ne savent pas ce qu'il y a. Par contre, à un moment donné, Satan entra dans Judas, nous dit Jean 13, 27. À un moment donné, il y a un ensemble, on pourrait dire, de pensées fausses, de mensonges, en fait, qui fait que le projet de livrer Jésus contre 30 pièces d'argent est assimilé à la personne de Satan. J'aime bien cette citation de Doris Lessing que je ne connais pas, qui dit « Pensez faux, s'il vous plaît, mais surtout, pensez par vous-même. » Alors, je vous propose d'oublier la première partie, « Pensez faux, s'il vous plaît. » Mais « Pensez par vous-même, oui. » Hein, autrement dit, on peut confronter nos pensées. Mais « Pensez par vous-même », c'est recevoir la pensée de Dieu et la faire sienne. Ce n'est pas avoir sa propre pensée de Dieu. Non, c'est recevoir la pensée de Dieu, mais comme sienne. Et c'est différent de recevoir la pensée de Dieu comme sienne que de dire, voilà, Dieu pense comme ça. Je sais comment Dieu pense. Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que je pense moi, parce que c'est ce que je pense moi qui me définit. Qu'est-ce que je pense de la mort ? Est-ce que la mort est un épouvantail ? Oui. Est-ce que la mort fait peur ? Oui. Mais qu'est-ce que Dieu dit de la mort ? Fin de Genèse 3. Éloignons l'homme de l'arbre de vie afin qu'il ne vive pas à jamais. Hein? Afin qu'il il ne reste pas en vie. Pourquoi est-ce que Dieu veut éloigner l'arbre de vie, l'homme de l'arbre de vie ? C'est parce que Dieu ne veut pas que l'homme demeure éternellement dans la position, finalement, difficile qui est la sienne. Donc, notre mort est une grâce et pas une sanction. C'est la fin d'une période pendant laquelle Dieu veut nous faire vivre quelque chose. Alors, est-ce que j'envisage la mort comme fin, comme aboutissement ? Comme moment bienheureux où j'ai, comme dit Paul, achevé ma course, c'est complet, et je vais pouvoir à la fin de ma vie dire à ceux qui sont autour de moi, ça y est, c'est complet. Hein? J'ai plus de chance que vous parce que j'ai fini ce qui était difficile à faire. Ou au contraire, est-ce que je m'accroche à quelque chose qui n'a pas de sens selon Dieu ? Est-ce que je fais la pensée de Dieu mienne ou pas ? Celui qui ne fait pas la pensée de Dieu sienne, c'est l'ennemi de nos âmes. C'est le diable. Diable qui veut dire diviseur, Satan qui veut dire adversaire. Et Jean 8, 44 nous dit que le diable n'a pas persévéré dans la vérité, car il n'y a pas de vérité en lui. Quand il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et père du mensonge. Soit six affirmations concernant le mensonge. 2 Corinthiens 4, 3 nous dit que le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées des incrédules afin que la lumière de la gloire de l'Évangile du Christ ne reluise pas en eux. Autrement dit, je crois que un des fonds de la vie chrétienne, c'est d'être avec Dieu et de recevoir sa pensée. Voilà un levier important de mon existence tous les jours. À tout moment. Recevoir sa pensée, c'est ça qui construit mon être. Galates 6, 9, à la suite du verset 7, qui dit « semer, récolter », dit « en temps voulu, nous moissonnerons si nous ne défaillons pas ». Autrement dit, ce terrain de mes pensées est un terrain qui se construit. Alors sur ce terrain, qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, je vais remuer « entumeomai ». Hein, je vais labourer, par exemple. Je vais arroser, noya, pour comprendre. Hein? Alors là, je n'ai pas mis logizomai, hein, mais je vais, avec le temps, je vais finir par comprendre et je vais phronéo, je vais établir, mais je vais avoir des émotions qui correspondront à des pensées justes. Je vais, parce que finalement mon jardin intérieur est aménagé, je vais avoir des convictions d'okéo et je vais agir. Et vous remarquerez que dans mon jardin intérieur, il y a des choses pour me protéger, les haies, des choses qui sont plutôt pour l'agrément, ici, les arbres, ou pour la consommation, les arbres fruitiers. Peut-être des arbres qui font de l'ombre, des potagers et des endroits pour prendre le soleil ou pour être à l'ombre. Autrement dit, mon jardin est varié. J'ai un jardin personnel intérieur avec des haies. Je ne dis pas tout à tout le monde. Ça, c'est une construction de l'être qui se fait, même si on ne le sait pas, mais qui peut se faire bien ou mal. Voilà. Comment est-ce qu'elle peut éventuellement se faire mal ? Ici, au lieu de construire une intimité, je vais construire des barricades et je vais construire une timidité. Au lieu de construire une identité, je vais construire une comparaison. Au lieu de construire une action, je vais construire une fuite. Au lieu de construire une réflexion, je vais construire un désordre. Au lieu de construire, je vais ne rien faire, l'absence. Et du coup, mon ressentir sera douloureux et mon vouloir sera aléatoire. Emmanuel Kant dit « Dans les ténèbres, l'imagination travaille plus activement qu'en pleine lumière. » Là aussi, ça m'a touché. Dieu nous appelle à la lumière. Dieu nous appelle à la vérité. Et dans la vérité, finalement, on n'a pas beaucoup besoin d'imaginer. On pense et on fait. Dans les ténèbres, alors là, il faut un petit peu bidouiller et tripatouiller. En conclusion, dans nos pensées, nous sommes appelés à intervenir systématiquement et de manière très vigilante. J'aime bien cette citation. Je ne sais pas de qui elle est, je pense qu'elle risque d'être de moi, parce que je m'y retrouve beaucoup, mais je n'ai pas noté d'auteur. On peut savoir beaucoup de choses sans être forcément intelligent. Il ne faut pas confondre l'intelligence et l'érudition. L'intelligence et la connaissance. Il y a des gens intelligents. Il y a des gens qui ont fait des cursus universitaires glorieux, Sciences Po, Polytechnique, Rudulm, etc., agrégation, qui ont de la connaissance. Mais ces gens-là, s'ils ne sont pas capables d'aller dire bonjour à quelqu'un et de rentrer en relation simplement, alors ils ne sont pas intelligents. Et là, on peut savoir beaucoup de choses sans être forcément intelligent. Autrement dit, l'intelligence, c'est la faculté de comprendre. Dieu nous donne l'intelligence, on l'a vu au début de la présentation. De Timothée 2,7, Paul dit à Timothée, « Considère ce que je te dis, et le Seigneur te donnera de l'intelligence. » Dans Luc 24,45, Jésus ouvre l'intelligence à ses disciples. Il ouvre leur compréhension. Le moteur de nos pensées, c'est la compréhension. Et on a vu que cette compréhension, elle se fait avec l'entumiomai, le logizomai, le noéo, le phronéo et le dokéo. Autrement dit, il y a une manière de comprendre, une manière de comprendre, qui est variée, mais qui n'est pas si compliquée que ça, qui tombe un peu sous le sens. Et on en remarque la pertinence dans la Bible. Mais l'intelligence n'est pas seule dans le domaine de nos pensées. Dans les proverbes, par exemple, ces trois aspects reviennent souvent, je crois qu'on en a déjà parlé, notamment et aussi avec Exode 35, à Oholiab et Betsaléel. Dieu leur a donné de la connaissance, de l'intelligence et de la sagesse. La connaissance, C'est la connaissance du matériau. Je sais ce que c'est que du bois. La connaissance du matériau. Je sais qu'avec un bois dur, un bois de fruitier par exemple, je peux faire une chaise. Je sais qu'avec un bois dur, je peux faire une table ou un meuble, le merisier, le chêne, etc., le noyer. Mais pour faire la table, pour faire le meuble, alors il faut que je sois intelligent, il faut que je comprenne comment est-ce que je peux le faire. Mais par contre, pour utiliser la chaise ou la table, alors il faut que je sois sage. Et la sagesse, c'est la capacité d'utiliser quelque chose par rapport au bien et au mal. Alors que l'intelligence, c'est la capacité de faire quelque chose. Mais dans le fait de faire quelque chose, il n'y a pas de bien et de mal. Dans mes pensées, j'ai à construire le terrain à bâtir, avec les haies, avec les potagers, avec les fruitiers, avec les arbres et les pelouses pour l'ombre et le soleil, etc. Alors j'ai à le faire avec les matériaux que Dieu me donne, avec l'intelligence ou la compréhension que Dieu me donne et avec la sagesse que Dieu me donne. D'où vient l'obsession ? L'obsession vient en général d'une connaissance exacerbée. Si par exemple je fais une thèse sur l'infrarouge qui me permet d'utiliser ma télécommande, eh bien je vais être un spécialiste de l'infrarouge et partout là où je vais regarder s'ils ont de l'infrarouge pour communiquer, je vais penser infrarouge, etc. Autrement dit, l'infrarouge va prendre une place dans mon jardin intérieur énorme et je risque d'en être obsédé. Mais une autre manière d'être obsédé, c'est de m'interdire de penser à l'infrarouge. Comme il y a des gens qui s'interdisent de penser au dessert, ou à l'argent, ou au sexe, ou à 36 choses, ou à la gloire, ou etc. C'est-à-dire en fait, le problème n'est jamais dans la connaissance des choses. Le problème n'est pas dans la connaissance du bien et du mal. Le problème, il est dans le regard qu'on porte sur le bien ou sur le mal. Et dans ce regard sur ce que Dieu nous permet de connaître, alors faisons cette expérience de la présence de Dieu et de sa lumière pour avoir un juste regard sur la connaissance. C'est comme ça qu'on sort des obsessions. De la bouche de l'Éternel, Proverbe 2, verset 6, procède l'intelligence et la sagesse. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Proverbe 9, verset 10. Autrement dit, l'intelligence et la sagesse s'acquièrent par le face-à-face avec Dieu. Par contre, pour la vérité, il est dit, Proverbe 23, 23, achète la vérité et ne la vend pas. Alors là, il y a quand même un peu de différence. On a l'impression que parce qu'on prend du temps à rester près de Dieu, alors des choses se passent ici. Mais par contre, là, il faut recevoir ce que Dieu donne, il faut prendre ce que Dieu donne. Vous savez, en grec, lambano, ça veut dire prendre et recevoir. C'est intéressant. Parce que ce sont deux gestes tout à fait différents. Tu reçois ce que je te donne, ou bien tu prends ce que je ne te donne pas. Prendre et recevoir. Mais tu peux aussi prendre ce que je te donne. Achète la vérité et ne la vends point. On pourrait dire que l'enjeu dans nos pensées, c'est que Dieu y soit et c'est que je prenne la peine de recevoir ce que Dieu me demande. Malachi 3, verset 10, je crois. Éprouvez-moi et apportez la dîme au temple et vous verrez si je ne déverse pas en vous la bénédiction jusqu'à ce qu'il n'y ait plus assez de place. En conclusion, on a vu un ensemble de versets, on ne les a pas tous vus, mais en voilà quelques-uns, et puis d'autres qu'on n'a pas vus non plus. Romains 12, 3, on l'a vu. Penser juste nous amène à avoir une bonne image de nous-mêmes. Ha ! Alors, on fait beaucoup de travail sur l'image de soi, Mais par contre, penser juste, c'est-à-dire connaître l'ensemble de la révélation de Dieu, y compris le millénarisme. Hein? Penser juste, ça nous amène à une bonne image de nous-mêmes. Penser juste, ça nous amène à connaître le Dieu de paix et la paix, Philippiens 4, verset 9. Penser juste, ça nous amène à avoir autorité. Tite 1, verset 9 nous dit qu'il faut que le surveillant ou l'ancien soit capable d'exhorter par un seul enseignement, mais aussi de réfuter les contredisants. Et c'est lui qui a autorité. Penser juste, ça donne autorité. Autorité en grec, c'est exousia. Ousia, c'est un participe aoriste, enfin comme le présent, quoi, du verbe être. Et ex, c'est l'extériorisation. Autrement dit, l'autorité, c'est quand j'extériorise ce que je suis. Si ce que je suis, c'est bon, alors ça fait du bien aux autres. C'est ça, avoir autorité, en fait. Et donc, penser juste donne l'autorité. Penser juste donne la perfection. Hébreux 5, 14, c'est l'homme complet ou parfait a par le fait de l'habitude, les sens exercés à discerner le bien du mal. Penser juste, c'est avoir des réponses à nos prières. Dans Jacques 1, verset 8, il est dit que, je crois, hein, il faudrait peut-être vérifier, mais que celui qui est ballotté ne pense pas avoir une réponse de Dieu. Hein, parce que celui qui doute ne pense pas avoir une réponse de Dieu parce qu'il est comme un homme ballotté hein, par la marée. Et penser juste, purifie mon âme, 1 Pierre 1, 22. 1 Pierre 1, 22, c'est « ayant purifié vos âmes par l'obéissance à la vérité ». La vérité, il faut que je la connaisse, et si il faut que j'y obéisse, il faut que j'y rentre dans cette vérité. Alors, voilà quelques conséquences. Être bien, avoir une âme purifiée, c'est quelque chose d'un peu ineffable. On ne peut pas tellement, comment dire, se représenter ce que c'est que d'avoir une âme en bon état ou une âme pas en bon état. Hein? Mais nous, ce matin, qui avons parlé des émotions agréables et des émotions désagréables, on peut bien se représenter ce que c'est. Et donc, ça vaut bien la peine d'avoir compris, et c'est peut-être mon dernier mot, à quel point je peux avoir un levier sur l'ensemble de ma vie à chaque moment où je pense, en rencontrant Dieu, finalement, en étant ouvert à lui, pour que la pensée que je cultive de fait soit une pensée qui soit conforme à la sienne. Voilà. Peut-être que par rapport à cette présentation, il faudrait que toutes vos remarques, vos questions, comprennent une bonne partie de perspective pastorale. Hein? Ça, c'est une présentation générale qui donne des réalités simples, pensées, des mécanismes relativement simples, réfléchir, etc., qui montrent les personnes en présence, qui montre certains dysfonctionnements, mais peut-être que vous pourriez maintenant intervenir, notamment en précisant les choses par rapport à des difficultés. Donc quand vous le faites, voilà, Nicole, prenez bien le micro, s'il vous plaît.
Je repense à ce que tu as dit de Caïn tout à l'heure. Tu as dit il n'a pas fait comme Abel. Donc il n'a pas offert de son menu bétail. Hein. Il m'est venu une pensée il y a des années, hein, parce qu'une jeune fille m'avait posé la question. Elle m'avait dit Dieu est injuste parce qu'il n'a pas eu égard au sacrifice de Caïn. Pourquoi ? Je dis, ça me frappe aujourd'hui avec ce qu'on a dit. Caïn a méprisé quelque part la parole de l'Éternel qui avait dit... maudit est le sol à cause de toi, à l'homme. Et on peut penser qu'il ne pouvait pas ignorer cette parole qui avait été adressée à Adam. et il n'a pas tenu compte de ce que le sol était maudit, et il a offert quand même un fruit du sol. Est-ce que c'est pour ça que Dieu n'a pas eu égard à son sacrifice? Est-ce que tu le vois comme ça? Est-ce qu'on peut dire comme ça?
Ça peut bien, oui. Ça peut bien. C'est difficile d'affirmer quelque chose dans l'absolu, mais en tout cas, Caïn a désobéi. Et il a désobéi plusieurs fois, puisqu'en fait, après, Dieu l'a rappelé pour qu'il il dit « Si tu as mal fait, le sacrifice pour le péché est couché à ta porte. » C'est-à-dire, autrement dit, ton animal sacrifié, il est là pour que tu me l'amènes. Alors, vas-y.
Oui, c'est un petit peu la même chose que je voulais ajouter. En fait, Dieu lui a proposé une solution et Dieu voulait l'accompagner, en fait, et discuter avec lui. Et on voit, certains ont fait remarquer qu'il n'y a pas de réponse de Caïn. Il parla à Abel plus tard, sûrement, mais il n'a pas répondu à Dieu. Donc, il est resté bloqué, fermé. Il a refusé, en fait, la relation d'aide, en fait, que Dieu oui. voulait lui offrir. Parce que pour Dieu, il n'y avait rien de bloqué. Et même, il ne lui a pas reproché sa culpabilité. Il n'y a pas tellement de culpabilité évoquée, quoi. Tu as mal fait, mais voilà, tu n'es pas coupable. Tu peux encore te relever.
À ce propos de Abel et Caïn, de ce sacrifice... au Festival d'Avignon, là, au Festival de théâtre, j'ai entendu cette explication. Caïn a offert, comme tu dis, du fruit du sol. Voilà. Abel a offert des agneaux de son troupeau. Et donc, la personne qui donnait l'explication disait, ben voilà, Caïn, il a offert quelque chose qui ne lui coûtait pas plus. Ça. Alors que Abel, il a offert quelque chose qui lui coûtait un animal de son troupeau, quelque chose qu'il donnait de lui-même à Dieu. Voilà, j'ai trouvé, j'avais jamais entendu l'explication. Je vous la livre.
Pourtant, ça lui coûtait au moins la sueur de son front, le fruit du sol. On suppose qu'il était sous la... Voilà.
Avec cette image, moi, je prendrais plutôt le contre-pied. Parce que je trouve, je rejoins madame, qu'effectivement, offrir un agneau de son troupeau, on avait qu'à c'est pas lui qui a accouché de l'agneau, c'est la brebis. Et puis, il le donne, il avait qu'à tout simplement le surveiller. Il mangeait l'herbe qui était déjà là et qui appartenait au sol. Je trouve que le sacrifice est moins peut-être important que celui qui avait peut-être cultivé un terrain, enlevé des cailloux, arraché des mauvaises herbes, et ainsi de suite. Moi, je prendrais presque le contre-pied. Je veux pas être l'avocat de Caïn, mais enfin, je réponds à votre question. Enfin, ce que j'en pense, personnellement.
Alors, tu as parlé au début sur les pensées. Alors, si nos pensées sont bonnes, justes, nos actes seront justes. Quand nous avons affaire à des personnes qui ont eu tout un passé de pensées mauvaises, pas justes selon Dieu, leurs actes ne peuvent pas être justes, c'est évident. Elles viennent nous voir pour ça.
Oui.
Et notre démarche, elle est de les ramener à une pensée juste.
Et le problème, c'est que... Pour prendre l'exemple d'une crise de couple... Si on fait de l'allopathie, on va soigner la crise de couple. Et si on fait de la spirituellopathie, on va soigner le couple. La personne voudrait qu'on soigne la crise. Et elle ne se rend pas compte que s'il y a crise de couple, c'est parce qu'il y a deux personnes en fait, qui manifestent en fait, le fond de leur pensée. Et donc, nous, on a cette difficulté d'avoir à préserver une relation, qui est le couple, tout en proposant à la personne dans l'accompagnement de réfléchir sur ce qu'ils sont, les individus. Et Bien sûr, c'est un peu normal, on les comprend, enfin normal, c'est peut-être pas le mot, mais quand des personnes souffrent dans le couple, le plus souvent, quand un vient, il vient pour me dire qu'il critique l'autre. Et c'est-à-dire qu'il souffre de la relation qui est dévoyée, tordue, pervertie, douloureuse, non fonctionnelle, etc. Et de ce fait, quand on lui parle d'agir sur ce qu'il pense, alors souvent il réagit en disant mais qu'on est à côté de la plaque. Hein, parce qu'il faudrait mieux agir sur ce qu'ils font. Et j'en profite pour un peu anticiper ce que nous ferons sur le comportementalisme, sur les épîtres et le comportementalisme. C'est-à-dire apprendre à celui qui souffre à mieux faire et aussi à mieux être. C'est-à-dire être à la fois dans une découverte de ce qui peut mieux aller dans l'exécution et aussi dans la réflexion. Je pense par exemple à... Je suis un petit peu allé sous les chapiteaux de l'Armée du Salut, mais je ne sais pas si aujourd'hui il y a encore des chapiteaux. En tout cas, j'imagine, du temps où j'y suis allé, moi, à mon âge, rencontrer quelqu'un et avoir une rencontre qui va durer 10 minutes. Qu'est-ce que je pourrais dire, moi, à quelqu'un que je vais rencontrer 10 minutes? Il me semble que dans la vie du Seigneur Jésus, il y a plusieurs indications à cet égard. Et certaines choquantes. On va peut-être commencer par une ou deux choquantes. Quand Hérode l'a fait revêtir d'un tissu de pourpre royal et il a regardé en le méprisant, en se moquant de lui, qu'est-ce qu'a fait Jésus? Il ne lui a pas répondu. Il ne lui a rien dit. Pourtant, il était en face de l'autorité, entre guillemets, juive, parce que Hérode était un demi-juif, un iduméen, quelqu'un d'Édom, qui avait le pouvoir de délivrer, un peu comme Pilate, l'autorité romaine, qui a aussi le pouvoir de délivrer. Mais Jésus n'a pas répondu. Quand moi, j'ai évangélisé à Cannes, sur la croisette, j'étais en train de distribuer des évangiles de Jean, des petits évangiles de Jean. Et à un moment donné, il y a un monsieur qui me dit de venir, alors je viens. Il me dit bonjour monsieur, je dis bonjour monsieur. Il me dit est-ce que vous pouvez me rendre un service? Je dis oui. Il me dit est-ce que vous pouvez me donner ce que vous distribuez? Je dis oui. Et il me dit est-ce que vous pouvez me rendre un service? Je dis oui. Et il me dit est-ce que vous pouvez aller le mettre à la poubelle s'il vous plaît? Voilà. Et là... je ne lui ai pas répondu et je suis parti avec l'évangile et je pense que je ne sais pas si cet homme est toujours en vie parce que c'était dans les années 90 mais on ne sait pas ce que ça peut produire ça et le soin pastoral il est valable autant pour des moments ponctuels comme ceci que pour des moments plus longs. Alors voilà un premier propos choquant. Un autre propos choquant, c'est quand Jésus est fait prisonnier par ceux, les huissiers, etc., qui viennent le prendre au jardin du pressoir. Il est fouetté, il est frappé, et même on le couvre et on le frappe et on lui dit « Prophétise, Christ, qui est-ce qui t'a frappé ?» Mais dans un autre passage que celui-là, on le frappe et lui, il répond « Si j'ai mal parlé, rends témoignage du mal. » Autrement dit, voilà encore dans des situations choquantes, Imaginons que quelqu'un vienne dans un rassemblement de chrétiens, quel qu'il soit, hein, autant Armée du Salut ou Évangélisation ou Festival d'Avignon, etc. Et quelqu'un vient pour maudire. Et donc une simple question, mais voilà, pourquoi est-ce que tu fais ça ? Quand vous allez croire que j'ai plein d'anecdotes dans, en réserve, mais ce n'est pas vrai, mais j'y pense. Hein. Quand j'étais opticien, je témoignais pas mal, et d'ailleurs mes patrons qui étaient chrétiens appelaient mon bureau en haut le confessionnal. Et un jour, il y a quelqu'un qui me dit « Vous devriez aller dans une rencontre de psychiatre ». Et alors, tout fier, etc., je vais à cette rencontre de psychiatre, je n'ai rien compris, mais vraiment de rien. Et à la fin, je demande à parler à l'orateur. Et puis, je lui posais des questions qui montraient clairement que j'étais non seulement un ignare, mais un idiot, puisqu'en fait, je voulais parler de choses que je ne comprenais pas. Et alors, il m'a regardé un peu tendrement et m'a dit « Mais pourquoi est-ce que vous êtes venu ?» Et ça, si je vous en parle, c'est que je m'en suis souvenu. Et ça, c'est vraiment la phrase qui tue, ça. Et on est complètement là-dedans. Hein? C'est-à-dire que il y a des choses qui nous touchent en profondeur dans nos pensées. Et sachons justement les manier le cas échéant. Alors là, il y a des situations, Jésus ne répond pas, Jésus pose des questions. Quand le jeune homme riche vient lui dire « Que faut-il que je fasse pour avoir la vie éternelle ?» et que Jésus lui dit « Garde les commandements, lesquels, etc. » Il dit « J'ai fait ça. » Il lui dit « Vends tout ce que tu as distribué aux pauvres. » Et lui s'en alla tout triste parce qu'il avait de grands biens. On a vraiment l'impression que Jésus le laisse partir. Voilà encore une autre attitude à avoir. Et c'est un langage, ça, en fait. Hein. C'est un langage auprès des gens. Et nous, on a l'impression qu'il ne faut rien faire d'autre que de prêcher Jésus et Jésus crucifié. Eh oui, mais Jésus lui-même, il ne l'a pas fait. Alors bien sûr, comme on a vu tout à l'heure dans la lecture millénariste de l'Évangile, c'était l'Évangile du royaume, donc il amenait la bonne nouvelle du royaume. Mais quand même, je veux dire que Jésus, il n'a dit à personne, écoute, repens-toi, repens-toi, repens-toi. Non, Jésus, il a fait des réponses variées. Et des réponses qui étaient là pour que les gens se remettent en question et aient un cœur, justement, malléable, un cœur ouvert. Peut-être c'est important pour vous d'entendre trois versets qui disent pourquoi est-ce que certaines personnes ne veulent pas entendre la parole de Dieu. Je ne sais pas si je vous les ai déjà cités. Le premier, c'est Jean 5, 44. Qui dit quelque chose comme « Vous ne pouvez pas recevoir la gloire ou la manifestation », c'est la même chose, hein? c'est le même sens, la gloire de Dieu, parce que vous recherchez la gloire des hommes. Jean 5, 44. Autrement dit, si j'accorde trop d'importance à ce que les hommes disent, ça m'empêche d'entendre ce que Dieu dit. Le deuxième verset, c'est Jean 8, 47, qui dit « Celui qui est de Dieu entend les paroles de Dieu. Vous, vous n'entendez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. » Autrement dit, là, il y a une question de filiation, il y a une question de relation qui fait qu'on peut se parler et qu'on parle la même langue. Et puis, Jean 12, 43, qui dit « Ils ont aimé la gloire des hommes plutôt que la gloire de Dieu ». C'est un peu le même sens que Jean 5, 44.
Justement, j'aimerais, suite à ça, revenir sur... Tu as parlé ce qui est l'accès aux pensées. Donc Dieu, les anges, les démons, le diable. Est-ce qu'on peut dire les autres ? Ou alors on les met où, les autres ? Parce qu'il y a beaucoup de pensées qui nous sont suggérées par les autres, par la société, par oui, le monde, tout ce qui nous entoure, bien ou mal. Hein? Oui.
Absolument. Je pense d'ailleurs que je devrais le rajouter sur la présentation. Je pense que l'idée que j'avais était plutôt de montrer ce à quoi on n'a pas l'habitude de penser. Et effectivement, le plus souvent, on est sous influence, hein, sous influence des autres, tout à fait. Oui.
Mais le verset là, de Jean 8, 47, c'est un peu une impasse. Comment voulons-nous parler de Dieu à des gens qui ne connaissent pas, mais à qui on veut parler de Dieu ?
Oui. Autrement dit,
oui.
C'est bon, hein, je l'ai mis.
Oui.
Autrement dit, je pense que du point de vue individuel comme du point de vue collectif, c'est-à-dire familial, national, une nation étant un ensemble de familles, Dieu veut nous faire l'expérience de la misère quand on n'est pas avec lui. Ceux qui recherchent la gloire des hommes, eh bien Dieu leur dit, voilà, moi je parle. Hein, moi je m'adresse à tous les hommes, je parle par la création, par la conscience, par l'incarnation, par l'écriture, par Israël, je parle. Mais, vu que dans la seule pensée des hommes, ce n'est pas suffisamment plein pour donner une plénitude, alors quand les hommes en auront assez de la gloire des hommes, alors ils se tourneront vers la gloire de Dieu. Et ce mécanisme de dire à un moment donné, ça suffit, hein, le fils prodigue dans Luc 15 qui dit à un moment donné, il revient à lui, et il dit, mais qu'est-ce que je fais ici ? C'est la misère ce que je suis en train de vivre. Eh bien, ce mécanisme-là, on n'en contrôle rien. On a beau parler au fils prodigue avant qu'il aille au fond, on ne sait même pas d'ailleurs où est le fond. Et on ne sait pas quand est-ce qu'il va passer de ce qui est appelé la gloire des hommes à ce qui est vraiment la gloire de Dieu.
Je parlais plus du verset de Jean 8, 47. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu.
D'accord. Donc, excuse-moi, je n'avais pas...
Oui, je n'ai pas cité.
D'accord. Donc, dans Jean 8, le Seigneur Jésus... alors d'abord, le Seigneur Jésus s'approche de Jérusalem. Il est à la fin de son ministère. Et il fait une controverse avec les Juifs. En Jean 8, 32, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Mais... En Jean 8, 41 ou 42, il leur dit, vous avez pour père le diable. Et autrement dit, il est en train de leur dire, mais vous pensez, parce que vous êtes fils d'Abraham, avoir, de par votre filiation, quelque chose d'essentiel. Mais si vous n'êtes pas vraiment fils de Dieu, en fait, vous n'y êtes pas. Vous, vous glorifiez d'être juif, mais l'important, ce n'est pas d'être juif, l'important, c'est d'être le peuple de Dieu. Voilà. Et c'est là où, justement, il faut lire l'Évangile avec la lecture de l'Évangile du Royaume. C'est-à-dire que Jésus vient parler aux Juifs. Nous, on peut en faire une lecture morale. Mais Jésus vient parler aux Juifs en disant « Je suis le Messie ». Quelques versets plus tard, au chapitre 10, les Juifs vont dire « Mais jusque quand tiendras-tu notre âme en haleine? Si tu es le Christ, dis-nous-le. » Mais Jésus leur répond « Mais je vous l'ai déjà dit. » C'est Jean 10, versets 24 et 25. Autrement dit, le problème du Juif de cette époque-là, c'est qu'il s'énorgueillit d'être Juif, il se lamente de ce qu'il n'y a plus de royauté et il attend peut-être le Messie. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas enfant de Dieu, en fait. Et Jésus est en train de leur dire, mais pour que le Messie vienne, il faut qu'il y ait un peuple qui réclame que la gloire de Dieu revienne dans le temple. Selon la promesse d'Ézéchiel 43. Pour que, en fait, le Messie puisse dire, oui, je reviens parce que mon peuple m'appelle. Mais en fait, ce peuple qu'il appelle, c'est un peuple, on pourrait dire, nationaliste, qui se fiche pas mal de Dieu et qui voudrait simplement bouter les Romains hors de Canaan, hors d'Israël.
Puisqu'on parlait d'accompagnement pastoral, je trouve que, par exemple, le verset Jean 8, 47 est relativement important pour chacun d'entre nous, parce que si on s'adresse à des gens qui ne parlent pas la même langue que nous, et puis sinon pas, ils ne connaissent pas Dieu ou qu'ils le refusent, bien, c'est là où nous devons témoigner et intervenir. C'est le rôle de, donc, c'est un terrain, un jardin à cultiver. Bon, mais c'est peut-être difficile, parce que si on ne parle pas la même langue, enfin, je comprends, et vous comprenez ce que je veux dire, je ne parle pas norvégien et moi espagnol, c'est pas ça que je veux dire, mais on va pas voir évidemment donc de communication possible, et c'est là toute la difficulté. Alors, est-ce qu'il faut adapter à ces gens, pardon, à ces personnes, qui ne parlent pas le même langage que nous, un langage qui leur est propre, ou il faut au contraire, disons, essayer de les faire venir à notre propre langage, par exemple à l'Évangile, enfin ainsi de suite. Donc une adaptation ou pas? Voilà. Et comment?
On verra dans l'atelier qu'on fera, dans une bonne heure, comment faire prendre conscience à quelqu'un des pensées qu'il nourrit et qui lui font du mal. C'est notre deuxième outil. Et si je reprends l'ensemble des clés, la dynamique pastorale, alors là où quelqu'un souffre, il faut lui faire identifier les souffrances qu'il ajoute en fait aux souffrances qui sont les souffrances de la vie dans lesquelles Dieu nous appelle à vivre. Lui faisant identifier ces souffrances qu'il ajoute, il faut qu'il reprécise. Ces souffrances qu'il ajoute, il faut lui faire préciser les pensées qui induisent ces souffrances. Et repréciser ces pensées dans le langage de Dieu. Alors, tu parles de différence de langage, et c'est tout à fait ça. Eux parlent le langage de l'homme charnel, et s'ajoutent des souffrances. Et de ce fait, c'est à eux de choisir de prendre le langage de Dieu pour, en fait, vivre les souffrances que Dieu nous appelle à vivre, mais dans une perspective de bonheur.
C'est différent. Par exemple, il est sorti récemment un livre sur l'évangélisation dans une tribu africaine. Et on a un très bel exemple de voir comment les évangélistes, ce sont des Sud-Américains, se sont adaptés à la culture de cette tribu et comment ils ont... Il y a des concepts dans ces tribus qui ne sont absolument pas incompréhensibles, de nos concepts chrétiens qui sont complètement incompréhensibles pour eux. Et comment ils sont entrés dans leur vie quotidienne et comment petit à petit ils ont adapter la compréhension de ces concepts. Donc c'est différent quand on évangélise que quand on est en relation d'aide, en accompagnement.
C'est différent et c'est pareil. C'est-à-dire que c'est différent parce que c'est de l'évangélisation, mais c'est pareil parce que ce sont aussi des méthodes d'adaptation. Et quand on a, par exemple, affaire à quelqu'un qui est célibataire, on ne parle pas comme à quelqu'un qui est marié. Quand on a affaire à quelqu'un qui est avec une maladie grave, hein, comme à quelqu'un qui est, etc., en bonne santé, ou quelqu'un qui est bouddhiste, ou etc., c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes approches, mais ce souci d'adaptation, pour moi, c'est une preuve d'amour. Autrement dit, écouter l'autre, le recevoir, en connaître quelques aspects et entrer dans ce qu'est l'autre, c'est une preuve d'amour, mais qui me permet de parler un peu son langage, mais dans son langage, de faire briller le langage de Dieu.
C'est tout à fait la démarche qui est exprimée dans ce livre. Et grâce au fait qu'ils se soient adaptés à eux, ils leur ont permis de comprendre le vrai message de Dieu. Ce n'est pas frelaté comme message. C'est vraiment un très beau livre.
Ben, effectivement, bon, je ne veux pas aller contre ce que tu dis, hein, c'est pas ça. Hein, mais en fait, je parle de l'adaptation. Parce que j'ai cru comprendre que, en fait, des missionnaires qui étaient à un terrain, disons, très éloigné, c'est pas la même chose que nous. Eh bien, écoutez, moi, hier au soir, je n'étais pas en Afrique, j'étais chez moi. Je recevais donc un jeune homme de 45 ans, qui avait de très gros problèmes. J'avais l'impression que j'entendais un papou. On n'était pas du tout sur la même longueur d'onde. Alors, par exemple, alors en plus, on avait des nuisances. Je savais qu'il y avait une autre personne qui voulait intervenir. Mais disons, je n'arrivais pas à me faire entendre et je n'arrivais pas tout à fait à trouver l'espace pour pouvoir franchir. Alors d'abord, c'était clair, net et précis, il n'était pas chrétien. Enfin, dans son état où il était, lamentable, il pleurait comme un veau parce que sa femme venait de partir. Et effectivement, il y a quelques fois, ce n'est pas la première fois que je le voyais. Et disons, il me parlait de quelque chose, j'avais du mal à intervenir parce qu'il ne me parlait que de relations sexuelles et d'argent. Et avec tout le détail, je veux dire, il était très très très, très pratique. À un moment donné, je ne savais pas trop que faire. Donc là, il m'était difficile, effectivement, de faire intervenir Jésus-Christ ou autre chose, effectivement. Hein. Donc tu vois que parfois, on n'a pas besoin d'aller loin pour avoir évidemment parmi les Africains que les missionnaires ont vus, je pense qu'il y avait peut-être aussi ce genre de choses. Bon, après, ça a dû faire son chemin parce qu'il m'a rappelé dans la soirée. À la fin d'après-midi, et il n'habitait pas Aix, il a fait dans la route, et là, eh bien, il y avait quelque chose qui avait changé. Il m'a remercié, il avait l'air d'être plus calme, parce qu'il voulait se suicider, hein. Donc, j'ai dit, mais peut-être qu'en fait, quand même, ça y est, on est arrivé à parler. Mais tu n'as pas besoin d'aller bien loin. Hein.
Dans la pratique pastorale, on peut se trouver comme dans ce tableau ici, la difficulté de l'être, où par exemple, on va passer tout un moment à ne parler que de comparaison. Et on aura l'impression, nous qui ne voulons pas rester dans ce langage, je ne dis pas qu'on se compare jamais, hein. Je dis que voilà, si ça nous arrive de nous comparer, bon, ben globalement, on ne souhaite pas le faire. Et quelqu'un qui ne fonctionnerait que dans ce langage-là, en fait, d'en parler avec nous et d'en parler avec quelqu'un qui ne fonctionne pas sur ce langage-là, mais qui accepte d'en parler avec lui comme ça, alors c'est déjà tout gagné. Tout gagné, c'est-à-dire on arrive à faire ce que Dieu nous demande, il me semble. La preuve, c'est ce qui s'est passé après d'ailleurs, hein, qui te téléphone. Autrement dit, je trouve que pour nous, dans notre pratique pastorale, ce qui est très ennuyeux, c'est le regard que nous avons sur la soi-disant réussite ou le soi-disant échec. Hein, voilà. Alors que, concentrons-nous sur ce que nous avons à faire. Faut-il parler de désordre ? Parlons de désordre. Faut-il parler à quelqu'un qui fuit ? Alors parlons avec quelqu'un qui fuit. Mais c'est toujours désagréable. C'est toujours euh, l'occasion finalement de montrer à la fois comment dire, ce que nous sommes dans l'absolu, ça on n'a pas de mal, on l'est, donc on le montre, mais aussi de montrer comment est-ce qu'on peut réagir par rapport à une certaine forme d'impuissance. Voilà. Si quelqu'un te contraint de faire 1 000, va et fais-en 2 avec lui. Autrement dit, ce n'est pas un problème de parler de pourquoi est-ce que le mur s'est fissuré, etc., alors qu'on sait qu'il y a beaucoup plus important. Mais si nous, on est en train de penser, nous perdons notre temps en parlant de choses insignifiantes, alors là, je crois qu'on se fait du mal et peut-être qu'on ne se prépare pas à aller plus loin quand ça sera le moment venu.
Il y a quelque chose que j'ai pas, et c'est bien que tu sois revenu sur ce tableau, parce que c'est lui où j'ai moins bien et moins suivi. Quand tu parles de comparaison précise, par exemple dans le cas, moi d'hier au soir, je ne peux pas comparer son état et le mien, quand même pas, surtout dans ce domaine-là.
Hein. Mais là je parle, de comparaison. Ça c'est le tableau du souffrant. C'est le souffrant qui se compare.
Ah d'accord, oui, je crois que dans le langage, il fallait dire « Ah mais mon pauvre ami, moi aussi, bon. » Et ainsi de suite. Oui d'accord, c'est ça. C'est le souffrant qui peut se comparer à une image qui ne peut pas atteindre, en fait, c'est ça.
Oui, hein? Oui. Par exemple, lui voit peut-être qu'il a un frère qui a beaucoup d'argent,
d'accord,
et qui court les filles. Mm-hmm. Et donc, pour 36 raisons, peut-être que c'est un idéal pour lui.
Voilà, d'accord. Hein? Alors, pour en revenir aussi à une petite chose que tu as un peu abordée, je crois qu'on ne peut jamais, effectivement, donc porter un jugement sur ce que l'on fait ou pas. Et je crois que la meilleure des choses, c'est s'en remettre à Dieu.
Oui.
Ça ne nous regarde pas, à la limite, le résultat. Hein? Bon, c'est lui qui voit et qui verra. Hein? C'est pas ça?
Absolument.
Bon, ça y est, je ne vois plus rien pour l'instant.
Juste encore deux points. Le premier, on parle donc des émotions négatives, mais on ne parle pas des émotions positives, parce que c'est facile à vivre. C'est une question.
Tu veux dire dans l'entretien pastoral?
Non, dans notre formation.
Eh bien, on en a parlé ce matin. La paix,
Oui, mais on a fait la peur, la tristesse. Si, si.
Mais on n'a pas fait que la peur et la tristesse. On a aussi fait la joie, la paix. On a compris que la paix résulte de la justice avec quelqu'un, etc.
D'accord.
Mais ça sera, on y reviendra.
Et une autre chose.
Et je préfère le mot douloureuse que négative. Mais oui, après, chacun prend celui qu'il veut. Hein.
Oui. De toute façon, c'est plus facile à vivre la joie que la peur.
Oui.
Une autre chose là, dans la partie d'aujourd'hui, là, sur les conséquences. Alors, la bonne image de soi, la paix, l'autorité. Est-ce que tu pourrais revenir? Moi, je n'arrive plus à mettre quelque chose dessous. Après, il y a la perfection, la réponse aux prières, une âme purifiée.
Oui. Donc, ce passage de Tite, hein, Tite 1:9. Qui dit qu'il faut que le surveillant soit capable autant d'exhorter par un bon enseignement que de réfuter les contredisants. Le surveillant, c'est celui qui a l'autorité dans l'Église. Il faut qu'il soit capable d'exhorter et de réfuter. Autrement dit, de faire comprendre le bien et de reprendre le mal, de faire comprendre le vrai et de reprendre le faux. Et dans le verset suivant, verset 10, je crois, il y a 7 manifestations du désordre, 7, 4 plus 3, et qui commence ou qui finit par un problème à l'argent, je crois. Et donc, il faut que le surveillant ait des pensées et une lucidité et un discernement très aigu sur toutes les manifestations du désordre pour qu'il puisse amener de l'ordre et supprimer le désordre. Et c'est dans ses pensées, cette lucidité sur cet ensemble de choses qui fera qu'il aura autorité. Autrement dit, l'autorité de quelqu'un ne vient pas de la fonction qu'il prend, il vient de la qualité de sa vie. Tu dis ? Oui, mais la puissance de Dieu, elle est de partout. Et la qualité de la vie, elle n'est pas de partout. Donc s'il nous voit,
s'il nous connaît vraiment, et quand on est face à quelqu'un justement qu'on doit réfuter, ça m'est arrivé. Bon, je n'étais pas très vaillante parce que bon, on ne sait pas trop comment ça va se passer, mais vraiment, j'avais prié avant et j'ai vu des miracles. Comment la personne en face de moi a accepté cette autorité alors que qu'est-ce que je suis ?
Mais tu vois, là, dans ce que tu dis, il y a plusieurs choses qu'il faudrait peut-être repréciser un petit peu. Qu'est-ce que je suis ?
Oui,
c'est pas juste de dire ça. Mm-hmm. Dans ce que tu nous as dit, tu as un parcours qui est quand même pas commun.
Mm-hmm. Oui, d'accord.
Voilà. Donc, en fait, de l'autorité, tu en as. Tu as l'expérience, en fait, non seulement de ce que tu es et de ta relation avec Dieu, mais de ce que tu as fait mm-hmm. aussi dans tout ton parcours. Mm-hmm. Alors...
J'étais émerveillée de voir tout ce que j'avais pu dire à cette personne et elle est restée sans voix et elle a réfléchi et après elle est partie.
Mais par ailleurs, ce que tu lui as dit, tu le savais, tu l'avais en toi. Dieu l'avait préparé en toi.
Oui,
ça n'a pas été un miracle, ça n'a pas été inspiré comme ça, tombé du ciel. C'est ça.
Oui, c'était un cheminement. Hein.
Oui.
Je suivais la personne depuis longtemps. Mais là...
Autrement dit, cette expression d'un Corinthiens 15:58, abondez dans le travail pour le Seigneur, sachant que votre œuvre ou service n'est pas vain ou inutile dans le Seigneur. Ça veut dire que tout ce qu'on fait, tout le temps, dans tous les lieux, avec tout le monde, a toujours son utilité. Si on regarde les choses avec le terrain à bâtir, alors on le comprend assez bien. En fait, on bâtit notre terrain, on pense, on vit intérieurement avec le Seigneur et on construit. Et donc un jour ou l'autre, ça produit ça. Mais nous, le problème, c'est que quand on voit des gens qui ont une belle maison provençale avec 3 hectares, avec des oliviers, etc., on voudrait être tout de suite dans ce genre de choses. Peut-être qu'on oublie qu'au départ, ils avaient un cabanon, hein, ces gens-là, mais ils ne le disent pas trop. Et donc, contentons-nous, c'est difficile à dire ça, ouais, de faire un pas après l'autre, en fait. Mais de savoir que ce pas après l'autre est un pas très important. 1 Corinthiens 15, 58, c'est ça que tu cherches ?
Oui, c'est ce que je cherchais. Pardon.
Et encore une fois, soyons convaincus, nous tous, hein, je me mets bien dans le lot, que dans nos pensées, nous avons quantité de choses qui nous polluent. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on baisse la tête et on fait comme si de rien n'était ? Ou est-ce qu'on véritablement se donne les moyens de faire des progrès, en fait ? Est-ce que, parce qu'à la mesure dont nous ferons des progrès, la personne qui est en souffrance, qui viendra nous voir, pourra faire des progrès ? Hein? Quand le Seigneur Jésus dit l'esclave n'est pas plus grand que le maître, c'est qu'en fait un maître peut amener un disciple ou un esclave à la hauteur de ce que le maître peut faire. C'est rare que les élèves dépassent le maître. Hein?
Souvent on entend dire que l'élève dépasse le maître.
Moi je crois que c'est rare. Hein? C'est rare, mais c'est heureux, ça arrive bien sûr. Hein? Voilà, mais je veux dire que nous qui, dans l'accompagnement pastoral, sommes des maîtres, il faut bien qu'on ait conscience qu'on pourra aider quelqu'un à mettre de l'ordre, ici, dans la mesure où nous, on aura mis de l'ordre. Hein, si nos pensées, c'est vraiment le n'importe quoi, hein, si je dis toujours « Seigneur, occupe-toi de ça », eh bien, on peut être certain qu'il ne s'y passe pas grand-chose là-dedans. Hein, et on le verra jeudi soir avec souveraineté de Dieu et responsabilité de l'homme.
C'est dans ce qui ressort de ce que tu dis, il faut vraiment prendre cette puissance de Dieu, cette force qu'il donne. Il ne faut pas avoir peur de, comment dirais-je, oui, de la prendre, de s'en servir, de lui faire confiance.
Voilà.
Et il me semble que tu sais, c'est un peu ce que tu veux dire.
C'est ça la foi, oui. Le micro pour Pierre.
Si j'ai bien compris, vous avez eu une situation difficile et puis vous avez l'impression que vous gagnez la partie, c'est pas joli à dire, mais enfin c'est comme ça, presque miraculeusement. Eh bien alors, je ne vais pas vous faire témoigner d'une expérience sur Appel Espérance parce que je n'ai pas beaucoup trop de personnes pour l'instant, mais pendant plusieurs années, j'étais à SOS Chrétien. C'est-à-dire que je répondais au téléphone à des appels. Et souvent, excusez-moi, alors on ne sait pas ce qu'il arrive, on décroche, on ne sait pas qui on a, parce que c'est tout à fait anonyme, et on ne connaît même pas le problème. Hein. Il faut le découvrir. Alors, au départ, on a un peu de panique. Et puis parfois, je me suis dit, mais c'est toi, Pierre, qui parle. Vous comprenez ce que je veux dire ? J'ai l'impression qu'il y avait quelque chose qui me guidait et qui me faisait exprimer. Et positivement, puisque la personne était contente et me remerciait après. Donc je veux dire, c'est pas... Donc je crois que ça, lorsqu'on y met toute sa foi, je crois qu'on est aidé dans ces cas graves. Et après, bon, je décrochais avec toute sérénité, même si c'est quelqu'un qui allait mourir, même si, bon, tous les cas possibles, imaginables, que l'on pouvait voir. Hein. Mais je crois qu'il ne faut pas évacuer cet aspect des choses. Dans ce genre de choses, on est aidé.
Je crois. Si on est appelé par Dieu, ça c'est clair. Voilà, c'est le fond du problème, il est là où on est
oui,
appelé,
c'est
on
vrai.
Pas appelé. Et si on est appelé, on peut y aller.
Oui, ben, enfin, oui, je crois que c'est juste. Hein. Mais comment serions-nous pas appelés à aller s'inscrire, disons, à SOS Chrétien, où la formation a duré tous les samedis, tout un an, une année, avec des psys, des psychologues, avec des religieux, et ainsi de suite, ou à Appel Espérance. Il y a quand même quelque chose qui...
Alors, je pense qu'on n'est pas tous appelés à la même chose. Il y en a des personnes pour qui...
Ah, la même chose, je suis d'accord.
Oui, il y en a d'autres qui sont complètement désemparés, ou trop sensibles, ou trop émotifs.
Oui, d'accord. Ou même chose, je suis entièrement d'accord.
Donc, je pense qu'on a chacun...
Mais Pierre, elle parle de principe, et toi, tu parles de circonstances. Hein, donc,
Oui, bon, d'accord.
On ne s'écoute pas.
Qu'est-ce qu'on fait ? On s'arrête là ?
On fait une petite pause, oui.
Hein ? Ça va ? On a dit ce qu'il fallait sur les pensées ?